RLFC, vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Nous sommes en compagnie de Damien Petitgrou, un réalisateur canadien, et de son producteur français, Olivier Gall.
Damien Petitgrou, vous êtes donc le réalisateur du documentaire Fellini, je suis un grand menteur. En quoi consiste votre métier de réalisateur?
Le rôle de réalisateur, c'est d'amener une vision personnelle de son sujet. C'est indispensable. Si on veut éviter des clichés télévisuels, si on ne peut pas faire quelque chose qui est un simple produit, il faut avoir une vision intérieure. Je ne peux pas être prétentieux en disant ça, mais c'est une manière de faire quelque chose qui est personnel, hautement personnel, et qui exprime quelque chose très fond à l'intérieur. Et c'est indispensable de trouver un producteur qui vous aide à concrétiser vraiment quelque chose qui est impalpable, quelque chose qui est invisible à l'intérieur. Et c'est avec l'argent, c'est avec l'amitié, c'est avec beaucoup de soin de faire naître une vision que vous avez. Et ce n'est pas du tout évident. Donc c'est une manière comme presque un sculpteur de voir quelque chose dans un bloc, un rectangle, et de sculpter votre vision. Et en fait, c'est une métaphore qui est assez précise, parce que le cinéma, c'est de sculpter. C'est une manière de sculpter carrément dans le temps.
Mais quelles études doit-on suivre pour être réalisateur?
J'aimais beaucoup l'école. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui n'aimait pas l'école. Donc, j'aimais beaucoup étudier. Et j'adorais la poésie surtout. J'aimais beaucoup la littérature italienne et française. Donc, je dois dire qu'en disant cela, c'était une question de rester dans des universités un peu, dans le tour ivoire. Et il fallait en même temps devenir artiste. Et comment on devient artiste? L'artiste, c'est une question peut-être essentielle. Parce que qu'est-ce que c'est un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui prend des expériences personnelles, qui essaie de rendre tout ça d'une façon universelle. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, même si c'est une seule personne, peut être bouleversé par ça. Je crois que des études littéraires sont très importantes, d'aimer toutes sortes de cinémas, aimer les cinémas dits BD. Il faut écouter également toutes sortes de musiques. Il faut écouter la musique classique, musique mondiale, et de se nourrir de beaucoup de sources. Et le cinéma, c'est la même chose. Il faut se nourrir de toutes sortes de cinémas. Et à fur et à mesure, vous pouvez trouver peut-être une manière de dire ça. Ce genre de film, ça m'intéresse beaucoup. J'ai été très, très marqué par ce film. Et vous pouvez peut-être dire, ah, j'ai envie d'imiter ça. Et c'est peut-être le premier pas vers une volonté d'exprimer quelque chose qui est personnel à travers quelqu'un qui vous a bouleversé.
Et il n'y a pas d'études spécialisées pour devenir réalisateur?
Non, oui, bien sûr, mais comme Orson Welles à la Cinémathèque française en 1983, il a dit aux élèves, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais franchement, vous perdez votre temps, il faut aller carrément acheter une caméra. Et si vous n'avez pas l'argent pour acheter une caméra, ah ben vous allez trouver des amis qui vont vous prêter, ou si nécessaire, aller voler la caméra. C'est bien sûr, il ne faut pas le faire, mais c'est une manière de dire que ce n'est pas en allant dans des écoles de cinéma forcément qu'on devient artiste. C'est très bon, une formation est nécessaire, mais on peut s'en passer de ça. Par exemple, Fellini. Pourquoi Fellini? Pourquoi j'ai envie de faire Fellini? Parce qu'il m'a bouleversé avec des films, surtout des films comme La Strada, Les Nuits de Cabiria, où il a fait une mise en scène avec sa femme qui s'appelait Giulietta Massina. Et en voyant ces films, j'avais peut-être le même âge que vous, et j'étais, mais qu'est-ce que c'est pas possible? On est bouleversé. Et ce bouleversement est très très important, parce que ça vous donne une énergie d'aller plus loin, de construire quelque chose à travers cet outil qui est extraordinaire, le cinéma, une caméra, de faire naître quelque chose devant la caméra. Mais Fellini m'a apporté ce genre de passion. Voilà. Oui, j'ai rencontré Fellini en 83, donc j'étais très jeune. J'avais terminé mes études en Angleterre et j'ai dit à mes parents, je vais faire un petit voyage à travers l'Europe. Et mes parents trouvaient ça, ça c'est bien, compléter un peu l'éducation, etc. Donc un peu voyage sentimental, culturel, comme ça. Mais en même temps, j'étais assez angoissé, parce que j'avais une vingtaine d'années et je ne savais pas quoi faire avec ma vie. On devient poète, mais comment on va payer le loyer avec ça? C'est pas possible. Et en même temps, je n'avais pas vraiment vocation de devenir professeur. J'avais envie de fabriquer quelque chose, de créer quelque chose, mais quoi exactement, je ne sais pas. Bref, j'ai rencontré plusieurs artistes à Paris, comme des gens intéressants comme Eugène Ionesco, Samuel Beckett. Vous allez voir, c'est des très grands auteurs intéressants. Et Italo Calvino, un jour, vous allez peut-être lire Le Baron Perché. C'est un grand classique, c'est très très bon, c'est très intéressant, et je crois que je vous conseille de trouver ce livre. Bref, Calvino m'a reçu, j'ai dit je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi avec ma vie, etc. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Et il était très très généreux, c'est un homme profondément humain, et j'ai dit mais je suis très intéressé des interviews. J'ai très envie de faire des interviews, comme vous faites en ce moment. Et donc, j'ai dit, peut-être on peut faire des films sur des rencontres, c'est-à-dire de faire des portraits. Et donc, j'ai proposé ça à la télévision canadienne. Et par une nuit d'hiver, ça a très bien marché. Ils ont accepté le CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Et j'ai fait un portrait, donc sans rien, je n'étais pas du tout au cinéma, le format, je n'ai rien, j'ai simplement engagé un très bon cameraman. J'ai dit que j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire ça. Il dit, mais non, c'est pas possible, mais c'est possible de peut-être faire ça. Donc j'étais guidé complètement, j'ai débuté complètement d'une façon aveugle, mais avec des idées assez précises, mais comment les réaliser, on ne sait pas. Mais le film est pas mal, c'est ça qui est curieux. J'avais évidemment beaucoup de chance. Donc, c'était grâce à ça, Calvino m'a invité à Rome. On a resté ensemble chez lui pendant 2 semaines. Et il était très grand ami de Federico Fellini. Et c'est là, après une semaine de tournage, il m'a dit, j'ai une petite surprise pour toi, Damien. Donc, il m'a amené à Cinecittà, à Rome. Et Cinecittà, c'est des studios, des très grands studios célèbres, qui étaient bâtis par le fasciste Mussolini, mais il s'est créé un immense studio où on peut tourner des films. Et ils sont immenses, des hangars, des entrepôts immenses pour tourner des films. Justement, ici, vous avez une photo de Fellini avec une actrice, c'est dans le film Satyricon, et il a tourné ça entièrement en studio. Ah oui, absolument. Donc c'était en 83, et en 83 il tournait le film qui s'appelle Elon Aveva, qui est un film très intéressant, et j'ai vu Fellini en train de travailler. Et on a pris le déjeuner, il a préparé un spaghetti. Et c'était très bon, on a parlé ensemble avec Italo Calvino d'un côté, Fellini de l'autre côté, et ça tournait autour des fromages français, en fait. Et Calvino défendait très bien le camembert, et Fellini détestait le camembert, tout ce qui tournait, ici, c'est pas possible, on peut pas manger ça. Mais il était, bien sûr, c'est une boutade. Mais ensuite, on a beaucoup parlé de son maître, qui s'appelle Rossellini, Roberto Rossellini. Je crois que quelque part, vous avez Rossellini marqué ici. Rossellini est très important dans l'histoire du cinéma parce qu'il a créé un mouvement, un genre de film qui s'appelle... Le style, c'est le néo-réalisme. Néo-réalisme, ça veut dire qu'on prend une caméra, on n'a pas beaucoup d'argent, on prend une caméra et on tourne carrément dans la rue. Il a tourné en 1945, avant la libération, parce que le pays était envahi par Hitler. Et Rossellini a engagé de très jeune Fellini d'écrire des sketchs un peu comiques pour un film qui est tragique. C'est sur la libération de la ville de Rome. Ça s'appelle Rome, ville ouverte. Ah, magnifique. Ah, encore des films bouleversants. Et c'est avec l'actrice Anna Magnani, qui est une actrice tragique, qui est tragédienne, magnifique. Et donc elle joue, elle meurt à la fin. Je parle de ça simplement parce que c'est Rossellini a créé un style qui est entre le cinéma et le documentaire. C'est pour cela que ça s'appelle néo-réalisme. Et c'est important dans le cinéma parce que au lieu de fausser la réalité, au lieu de créer une fiction avec la réalité, c'est une manière de capter le réel comme si c'était vraiment réel et de créer une histoire fictive, un drame derrière tout ça, mais c'est basé sur des faits réels. Et donc, on peut témoigner sur des vraies histoires qui sont passées sur la libération de Rome, autour de la libération de Rome. Et donc, carrément, capter une portion de l'histoire. C'est un témoignage historique. Et ça, c'est immense. On a besoin des gens qui peuvent faire ça. Voilà.
Pendant le tournage du documentaire sur Fellini, est-ce que vous avez appris à mieux le connaître ou est-ce que ça a changé votre façon de le voir?
C'est une question très intéressante. Il a trouvé que j'étais trop jeune. Vous savez que les Italiens, c'est très, très connu. Et quand il dit oui, ça veut dire non. Et quand il dit non, ça veut dire oui. Donc, j'étais très jeune et j'ai dit, je suis très content de travailler avec, évidemment, Calvino. C'est peut-être possible de faire éventuellement un film avec vous, Fellini. Mais Fellini, disons, oui. Qui veut dire non. Donc, il m'a fait attendre 10 ans. Oui. Il fait, you are too young. Vous êtes beaucoup trop jeune. Donc, il fallait attendre. Mais entre-temps, c'était quelqu'un... Parce que j'étais présenté par cet écrivain, Calvino, ça a laissé une trace, si vous voulez. Et donc... j'ai poursuivi Fellini dans un sens. Et donc, il m'a dit peut-être cette année, peut-être cette année, peut-être cette année. Ce qui s'est passé d'une façon rapide, c'est qu'il termine son film avec Roberto Benigni, qui s'appelle La Voce della Luna. La Voix de la Lune. C'est le dernier film qu'il a tourné. Et c'était en 89. Et. Il dit, bon, mais il était très vieux et malade. Et les producteurs ne voulaient plus de lui. Et Giulietta Massina était en train de mourir d'un cancer. Donc c'est une période très mélancolique pour Fellini. Et j'avais, bien sûr, chaque année, j'ai envoyé une lettre, quand est-ce qu'on peut faire ça, Federico, etc. Et il me dit, il me téléphone à Toronto, et Damiano, tu viens à Rome, je ne tourne plus, il n'y a plus de producteur qui veut prendre des risques sur moi, on va devenir on va voler des choses ensemble parce qu'on ne gagne plus d'argent, tu viens m'aider un peu, on va casser une banque, etc. Donc, je suis allé Et on a tourné pendant une journée, en 91, des premiers entretiens avec lui. Ça a duré toute la journée, carrément 10 heures. Et on a enregistré beaucoup de choses, des choses qui sont moins intéressantes, des choses qui sont passionnantes, mais beaucoup de choses. Mais c'était tourné sur des conditions assez mélancoliques. Fellini a très envie. Il était un homme connu d'une façon planétaire. Et il m'a reçu avec l'idée que je vais faire des entretiens avec ce jeune homme qui insistait et qui veut bien m'écouter sur des ondes profondes. C'est pas, ah oui, bon, on va faire des... Non, ça m'intéresse pas de faire des choses légères. Donc, on a fait ça comme ça. C'est tellement bien passé qu'on a décidé qu'un an plus tard, on va faire encore 10 heures d'entretien. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et Fellini meurt un an plus tard, en 93, et le monde entier me téléphone. Donc, je pouvais, d'une façon, vendre quelques extraits de cet entretien. Et ça a fait le tour du monde. Et beaucoup de gens voulaient faire un petit film de 52 minutes sur Fellini avec ses rushs. Et j'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a des choses profond, magnifique, que Fellini m'a laissé. On a besoin de créer un film beaucoup plus important. Et c'est donc le rôle de producteur. J'ai enfin trouvé, par hasard, un producteur français, profond, intelligent, doué, honnête. Et voilà. Et il est avec nous aujourd'hui, et il faut bien poser peut-être deux ou trois questions sur la fabrication des films.
Comment vous faites pour produire des films, pour trouver l'argent, pour faire ça, quoi ?
D'abord, je voudrais dire que moi, j'aime le camembert. C'était un point positif déjà pour la rencontre avec Damien. Et on s'est rencontrés autour d'un projet que Damien m'a apporté, qui était un film sur le peintre français Baltus, enfin français d'origine polonaise vivant en Suisse. Et je rentrais d'un tournage à la Villa Médicis quelques mois auparavant, et j'avais été impressionné par le travail de restauration qu'il avait fait là-bas. Et nous sommes partis ensemble très vite. On a signé un contrat avec les éditeurs de Baltus, et nous sommes partis faire ce film. Ça s'est bien passé. On a pu, de son côté pour Damien et pour moi, faire des films, un film qui nous a enthousiasmés, que c'était une aventure très intéressante. Et donc ensuite, Damien m'a mis au courant de son... Enfin, j'étais au courant de cet entretien, mais je ne l'avais jamais vu. J'ai lu l'entretien qui avait été publié chez l'Arche éditeur à Paris, une partie de l'entretien que Damien avait fait avec Fellini. Et c'est vraiment, je l'ai lu deux fois d'affilée, et je ne suis pas un grand lecteur. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était très intéressant. Ça s'appelle « Je suis un grand menteur » d'ailleurs, comme le titre du film. Quelques années après, on a œuvré ensemble sur quelques projets et il nous est apparu qu'il était temps de lancer la production du film sur Fellini. On était suffisamment matures, on avait plus de confiance de nos partenaires financiers, on avait avancé dans notre carrière, on avait déjà fait un long métrage, audiovisuel ensemble, qui était le film sur Baltus. Et donc le film sur Fellini, qui était un projet ambitieux, pouvait peut-être se monter. Donc on a travaillé sur un dossier, Damien a écrit, on a mis tout cela, on a envoyé ça à nos partenaires futurs, les diffuseurs, les distributeurs, et nous avons commencé à avoir des premiers accords avec des diffuseurs étrangers principalement. Arte, ensuite la chaîne Arte nous a rejoint. Je vous fais un résumé rapide, mais en fait ça prend beaucoup de temps tout cela, bien sûr. Ouais. Nous avons eu l'aide également de l'aide européenne Eurimage, c'est-à-dire qu'il y a des subventions en Europe qui aident le cinéma européen, qui sont très très importantes pour nous. Elles représentent jusqu'à 15-20% d'un budget d'un film. Et nous avons également travaillé avec deux producteurs étrangers, un Italien et un Écossais, une Écossaise en l'occurrence, Noé Mindel. Et nous avons été aidés par les fonds anglais qui aident le cinéma, comme des films de Stephen Frears par exemple, ou de Ken Loach, c'est-à-dire le Film Council Mais la représentation écossaise du film, comme c'est le Scottish Screen National Lottery Fund. Et tout ça réuni, 13 partenaires réunis, ça nous a permis de partir sur les routes de l'Italie, où on a vécu un voyage extraordinaire. Damien nous a emmenés sur les traces de Fellini, principalement sur les traces de 8,5, mais aussi sur la Strada et le Bidone. Et nous avons revisité les décors naturels des films de Fellini. Donc avant ce que faisait Fellini, principalement avant 66. Quoi. Ça a été une expérience extraordinaire. D'ailleurs, on pourrait peut-être en parler.
Oui. C'est-à-dire que peut-être il faut parler rapidement sur le décor de Fellini. C'est particulier parce que ce que Fellini fait, par exemple, dans le Satyricon ici, c'est de tout construire en studio avec des grands gens qui font des décors, mais c'est de créer un univers à l'intérieur. Et bien sûr, vous avez les libertés donc de créer la nuit, de créer les quatre saisons, de faire la pluie comme ça. C'est comme des grands studios hollywoodiens, sauf que c'est moins, oui, c'est plus fin. sans des effets spéciaux numériques, hein, ça c'était bien avant tout ça. Et donc, en même temps, Fellini utilisait des décors naturels, c'est-à-dire carrément de filmer dans la rue. Et donc, il fait un mélange de ce qui est faux avec ce qui est vrai. Voilà. Et ça, c'est la question qu'on a traitée dans le film. Je suis un grand menteur, parce que pourquoi menteur? Ça veut dire quoi? Il ment? Ben non, pas comme ça. C'est dans le sens de, comme vous connaissez Oscar Wilde, donc le portrait de Dorian Gray, par exemple. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Wilde a formulé, créé une formule l'artiste dit des mensonges, parce que ce qu'il créait autour, il créait quelque chose qui est fantastique, d'une façon tellement convaincante que ça devient plus vrai que vrai, le vrai. Et donc c'est curieux ce paradoxe, n'est-ce pas? Donc, c'est là que Fellini joue avec ça, en disant « je suis un grand menteur ». C'est-à-dire que je créais des inventions avec ma caméra, ce qui est quelque chose qui n'est pas vrai, en créant dans le studio, mais également en filmant le vrai. Et je fais un mélange avec tout ça, pour que ça devienne plus vrai que vrai. Donc, il est né à Rimini, près de Venise, dans le nord d'Italie. Et elle a dit, le Rimini que j'ai créé dans mes films sont beaucoup plus vrais pour moi que les Rimini qui existent actuellement, topographiquement. Et donc, c'est ça le pouvoir de l'artiste, de créer, de dire des mensonges qui sont vrais, plus vrais que le vrai. Et c'est ça qui est très important à comprendre dans un sens, parce que c'est ça la beauté de la littérature. C'est ça la beauté des choses que l'artiste crée à travers ses visions intérieures.
Un documentaire, le documentaire Fellini, vous avez commencé à filmer en 1991, c'est ça?
C'est ça, oui, on a tout enregistré.
Et vous l'avez fait, première... ça a duré longtemps ou vous avez mis combien de temps pour le finir?
Ben, en fin de compte, ça a commencé en 91, puis on a tourné encore en 92. Et donc ça, c'est la colonne vertébrale du film. Et puis ensuite, ce que on voulait faire, c'est d'autres entretiens avec des gens qui ont travaillé avec Fellini, des techniciens, des artistes, des actrices, des acteurs, etc. Et bien sûr, de capter des choses à Cinecittà et des choses... les lieux réels, les paysages réels de Fellini, qui est très important, parce que j'ai parlé tout à l'heure de néoréalisme, et Fellini vient de ça. Et Fellini a créé un style qui est aujourd'hui le style fellinien, c'est quand même un adjectif. Hein? Et c'est ça qui était ce qu'on a essayé de capter pendant. Mais il faut avoir un budget assez important, donc on a réuni presque, c'était quoi, 6 millions d'euros pour ça?
Non, 6 millions de francs.
Ah bah non, pardon, voilà, c'est ça, oui. Oui. Voilà.
À 6 millions d'euros, on aurait fait un don à l'école du Caire.
Pardon.
Mais c'est déjà beaucoup pour un documentaire français.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, on a eu 900 000 euros environ, ce qui est presque un peu moins de 6 millions de francs. C'est une somme importante parce qu'il y avait effectivement, d'abord on a monté le film l'idée du film en 2000, l'idée précise j'entends, 2000, et on a commencé à tourner des entretiens, mais à compte d'auteurs et de producteurs. On est parti tourner Roberto Bellini à Rome qui voulait bien nous recevoir, ce qui nous a permis aussi, grâce bien sûr d'abord à l'entretien que Damien avait fait, mais aussi avec le pouvoir de séduction qu'a l'artiste Bellini aux alentours des années 80, fin 90-2000. Ce qui est un petit peu moins vrai maintenant peut-être, mais à ce moment-là, après La vie est belle, au moment de La vie est belle, La vita est bella, il était connu dans le monde entier. Donc le fait qu'on puisse mettre sur le dossier, même si c'est un peu artificiel, mais il faut user de stratagèmes comme ça pour pouvoir plaire à nos financiers, parce qu'ils ont besoin de choses très visibles, vous voyez. Et donc Benigni, le fait d'avoir tourné également avec Benigni, ça les attirait beaucoup, même si Benigni dans notre film n'est là que 3 minutes sur 1h45. Donc nous avons travaillé pendant 3 ans en fait sur le film, entre le montage financier, le tournage,
montage,
faire venir les archives, et puis le montage qui a pris beaucoup de temps pour des raisons qui sont évidentes, c'est que le film, la manière de travailler de Damien est liée à une construction mentale avec beaucoup beaucoup de couches, c'est très très entrelacé, donc ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas évident de l'obtenir rapidement le résultat, sachant qu'on n'utilise pas de commentaires. Il n'y a pas de voix off qui viennent rapidement résumer une idée. Il faut pouvoir le faire ressentir par l'image et les sons.
Voilà,
et donc ça demande énormément de travail. Et puis on n'a pas été aidé toujours par nos vendeurs d'archives qui nous vendaient les archives à des prix exorbitants, mais ce n'était pas le problème puisqu'on avait levé un budget important. Mais des fois on avait un accord et 3 mois après on avait un refus sur une archive qui était au centre du film.
C'était censuré.
Comme un maillon d'une chaîne, si vous enlevez ce maillon, mais c'est tout qui casse, même si tout le reste est solide, tout tombe. Donc il fallait recommencer sur l'ouvrage, à remonter des séquences entières, parce qu'un tout petit bout venait de tomber. Mais il n'était pas remplaçable par un autre. Certaines fois, ça l'était. Certaines fois, ça l'était. Donc ça tombait bien, on arrivait très vite à... Donc il y a eu 9 mois de montage. C'est très très long. À la fois... pour le sens du film et à la fois du problème qu'on a eu avec les archives. Parce que Fellini, c'est un trésor que gardent bien au coffre beaucoup de studios et de producteurs mondiaux. Et certaines images, pour la même image, pour le même extrait de film, sont détenues par un studio américain, un studio français, un studio italien, par exemple. Ce qui complique énormément, bien sûr, les négociations, les accords, les faire venir le matériel. Enfin, voilà. Et chacun veut beaucoup d'argent, bien sûr, donc ça a été d'où le besoin de monter un budget important. Voilà un petit peu une histoire résumée. Olivier Gall.
Olivier Gall.
Grand plaisir, merci.
Merci à vous.
Au revoir.